Dimanche 28, c'était le passage à l'heure d'hiver. Nous avons reculé d'une heure. Certains dénoncent ce changement de rythme qui aurait des effets néfastes sur notre santé. Pour en parler, je suis au téléphone avec le docteur Patrick Assiag, cardiologue et vice-président de la Fédération française de cardiologie. Ce changement horaire d'une heure dérègle-t-il notre cycle du sommeil ?
Il semblerait que oui, dans la mesure où ce cycle de sommeil a besoin, on va dire, de 6 à 8 heures. Et c'est vrai que le fait de modifier d'une heure ce cycle peut en effet entraîner des troubles que l'on est en train de rechercher sur le plan physiopathologique, puisqu'en fait, on a quelques études qui sortent, mais on n'a pas, si vous voulez, l'explication formelle de ce qui se passe. Toujours est-il que nous sommes en présence d'une perturbation du cycle du sommeil qui fait en sorte qu'il peut y avoir à la fois des perturbations sur le plan de la glycémie, sur le plan, bien entendu, à l'hypertension artérielle, bien entendu, sur tous les autres facteurs métaboliques que sont à la fois le diabète, la surcharge pondérale et l'obésité.
Alors quand le week-end, on se couche 2 ou 3 heures plus tard, les conséquences sont-elles les mêmes pour la santé ?
En fait, ce qu'il faudrait, c'est adopter des horaires de lever et de coucher réguliers en se levant, on va dire, tous les jours à la même heure, y compris le week-end. Tout ceci pour mettre en place une synchronisation du rythme veille-sommeil. Et ça, c'est très important pour tout ce qui est métabolisme à la fois, on va dire, interne, lié au métabolisme hormonal et de tout ce qui contient, bien entendu, les paramètres des hormones et des facteurs à la fois lipidiques, glucidiques et concernant, bien entendu, la rigidité des vaisseaux et, bien entendu, concernant le sommeil.
Certaines personnes ont besoin d'un certain nombre d'heures, mais est-ce que nous sommes tous égaux face au nombre d'heures de sommeil ? Est-ce que, pour certains, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de dormir un peu plus ?
Alors, pour certains, il peut être nécessaire de dormir un peu plus, mais on va peut-être les encourager, si vous voulez, à dormir, on va dire, jusqu'à 8 heures, ce qui est déjà pas mal, voire éventuellement un tout petit peu plus, Et pour ceux qui sont des lève-tôt, dormir également au moins 6 heures. En sachant que cette durée du sommeil influe sur la santé cardiovasculaire, il est important pour nous de bien insister sur le fait que il n'y a pas que le sommeil, il y a tout le mode d'hygiène de vie qui est important, à la fois manger moins gras, moins salé, moins sucré, pratiquer un exercice physique régulier, surtout dans la journée, pas dans la soirée, parce que ça risque en effet d'entraîner une augmentation des catécholamines et d'empêcher le sommeil. Tout ceci rentre dans le cadre d'une bonne hygiène de vie, en évitant bien entendu les boissons alcoolisées, en évitant le tabac, en faisant en sorte qu'on ait une hygiène de vie la plus raisonnable possible, associée à une alimentation équilibrée. On estime au niveau de la Fédération française de cardiologie que le sommeil est un tout, mais il fait partie, si vous voulez, d'une sorte de régulation de l'organisme où intervient à la fois l'alimentation, l'exercice physique et bien entendu la bonne hygiène de vie en évitant boissons alcoolisées et bien entendu en évitant le tabac et en sevrant le tabac le plus rapidement possible.
Est-ce qu'il y a une heure favorable pour bien dormir ?
Tout ce qui est après minuit, 1 heure du matin n'est pas forcément favorable, voyez. D'accord. En fait, tout ce qui va être avant minuit sera favorable. Et le réveil aux alentours de 7h, 8h sera tout à fait favorable également.
Alors, quels sont les différents cycles du sommeil et l'importance de ces cycles ?
Alors, les cycles, il y a un sommeil lent, un sommeil paradoxal. Mais si vous voulez, tous ces cycles-là, vous ne pouvez pas les réguler. Vous ne pouvez les réguler que si vous avez une hygiène de vie, en fait, disons, une hygiène de vie qui est satisfaisante. Vous ne pourrez pas influer, sauf s'il y a une pathologie qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil, auquel cas, il y aura un appareillage qui permettra de réguler votre sommeil. Et bien entendu, éviter tout ce qui est ronflement, somnolence dans la journée, en sachant que ce syndrome d'apnée du sommeil est très fréquent actuellement chez les patients, qu'il peut grever le pronostic cardiovasculaire, il peut entraîner en effet des arythmies, un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, et nous sommes très vigilants au point de vue chez les cardiologues, mais également chez les pneumologues et les autres spécialités, pour détecter et dépister ce syndrome d'apnée du sommeil, qui lui va grever complètement le sommeil des patients, et va faire en sorte que s'il n'est pas appareillé, il risque d'avoir les complications que je viens de citer.
Alors quand je vous entends, pour les personnes qui malheureusement travaillent et font les 3-8, les risques augmentent ?
Et bien entendu, le risque est beaucoup plus important. En sachant que ces gens qui ont un cycle de sommeil inversé risquent bien entendu d'avoir un cycle alimentaire inversé, risquent bien entendu beaucoup plus que les autres d'avoir ce qu'on voit de plus en plus malheureusement, à la fois des troubles de la glycémie, une dysrégulation au niveau de la tension artérielle et surtout une surcharge pondérale, parce que ces patients ont un cycle également inversé au niveau de l'alimentation.
Une petite sieste en journée peut-elle perturber une nuit de sommeil ?
Au contraire, il faut que cette sieste ne soit pas très longue. On estime qu'une sieste aux alentours d'une demi-heure, 30 minutes, suffit largement, à la fois pour défatiguer l'organisme et pour lui permettre à la fois de recharger ses batteries, entre guillemets, et faire en sorte que le travail soit beaucoup plus efficient. Ce sont les Japonais qui ont mis en place ce système-là. Les Anglo-Saxons s'y mettent également, les Suédois également. Et nous, nous devrions également nous y mettre. Et je sais que certaines entreprises proposent des siestes à leurs employés pour, d'une part, entraîner une diminution de la fatigue, et d'autre part, très certainement, faire en sorte qu'ils puissent prendre beaucoup plus du plaisir au travail. Et comme vous le savez actuellement, on est en train de mettre en place une sorte de pratique du bonheur au travail. Et je pense que la sieste doit y participer.
Alors, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, les conséquences sur le sommeil. Alors, en tant que cardiologue, à partir de quel moment, vous, en tant que médecin, mais aussi au niveau de la profession, vous avez pris conscience que le sommeil était important pour l'organisme ?
On le voit de toute façon chez les patients. Ils nous disent, écoutez, docteur, j'arrive pas à dormir. Je m'endors tard. Ou je me réveille tôt. Si vous voulez, ma femme me dit que je ronfle. Et à ce moment-là, c'est ça le syndrome du sommeil. Vous savez que le sommeil intervient énormément actuellement. Il y a une recherche sur le sommeil. On n'est pas au bout, si vous voulez, de toutes les explications concernant le sommeil. Mais on est en train de mieux l'appréhender. Et je suis certain que dans les mois, ou du moins dans les années à venir, on arrivera à faire en sorte que chacun puisse disposer d'un sommeil, d'une durée de sommeil entre 6h et 8h qui sera optimale, à la fois pour sa qualité de vie, mais également pour préserver sa santé cardiovasculaire.
Avec tous ces écrans, les téléphones, la télévision, les programmes qui se terminent tard, tout ça ne favorise pas justement un équilibre et un bon sommeil.
Alors vous avez tout à fait raison, en fait tous les écrans, tout ce qui est télévision, écran, portable et j'en passe et des meilleurs, induit si vous voulez un retard au sommeil. Et bien entendu, va nuire, si vous voulez, à la bonne durée du sommeil, qu'on estime entre 6 et 8 heures, je répète, et qui devrait, en fait, de plus en plus être un facteur aggravant de, à la fois de la condition de travail et également des facteurs psychologiques et sociologiques qui vont rentrer dans ce système-là. On estime qu'actuellement, les écrans sont à la fois nuisibles pour les adultes, mais également pour les enfants. On a mis en place dernièrement un observatoire des jeunes. Et on s'aperçoit que les jeunes sont de plus en plus addicts aux écrans, dorment de moins en moins et bien entendu peuvent avoir une perturbation au niveau du rythme scolaire et au niveau de leur qualité de vie.
Y a-t-il des bons conseils à leur donner pour se préparer au sommeil ?
Pour se préparer au sommeil, il est certain qu'ils peuvent à la fois s'aménager, si vous voulez, un moment de détente après le travail, en rentrant chez eux le soir. Ils peuvent également lire, c'est très très bien pour pouvoir s'endormir. Ils peuvent surtout avoir un repas très léger le soir. Très léger le soir parce qu'on sait très très bien que lorsqu'on a un repas, on va dire, un peu plus abondant, avec souvent des boissons alcoolisées, on a du mal à s'endormir, il fait un problème de tachycardie, d'accélération du rythme cardiaque. Donc c'est une sorte de préparation au sommeil, et cette préparation au sommeil est favorisée plutôt par une bonne hygiène de vie, l'arrêt des boissons alcoolisées, le sevrage tabagique et une alimentation équilibrée associée à un exercice physique régulier, bien entendu plutôt dans la journée que dans la soirée.
J'étais au téléphone avec le docteur Patrick Assiag, cardiologue et vice-président de la Fédération française de cardiologie.